L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Au nom de Jésus. J'estime que ce que nous souffrons dans le temps présent ne peut pas se comparer à la gloire que Dieu nous révélera. Le monde entier attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses fils. Car le monde est tombé sous le pouvoir de ce qui ne mène à rien. Non parce qu'il l'a voulu lui-même, mais parce que Dieu l'y a mis. Il y a toutefois une espérance. C'est que le monde lui-même sera libéré un jour du pouvoir destructeur qui le tient en esclavage et qu'il aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore le monde entier gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement le monde. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme la première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses fils et nous accorde une délivrance totale. Amen. Un monde en mutation. Toutes les prévisions classiques, que ce soit en matière politique, économique, financière et démographique, sont tous bousculés aujourd'hui. Qui aurait pu imaginer en 2017 que des millions de personnes venant de l'Afrique, de la Syrie, de l'Afghanistan et d'autres pays oseraient traverser la mer Méditerranée et marcher des milliers de kilomètres, femmes et enfants, et arrivant à la porte de nos maisons aujourd'hui. Mais c'est fait. Le monde change. Et ce n'est pas fini. Tout va être bousculé. Car selon une étude de l'ONU, 40% de la population mondiale sera africaine en 2050. 40% de la population mondiale sera africaine. Et ça va tout changer. Tout chambouler. Nos manières de vivre. Et tous les pays qui existent sur Terre. Et on a même dit, c'est une étude que j'ai lue, que même les Blancs seront en minorité dans leur propre pays. Ça se sent déjà. Dès que nous allumons la télé, on ne voit que des désastres, des larmes, des cris, des destructions de guerre ou de cataclysmes naturels. De nouvelles maladies qui ne sont pas encore identifiées, mais qui causent beaucoup de dégâts. L'effondrement des systèmes financiers, à cause ou grâce, je ne sais pas, au vieillissement de la population. Le système de pension est mis à mal parce qu'on n'aurait pas pu imaginer que l'homme sera plus en bonne santé et il vivra plus longtemps. Les pasteurs de district HONL, on a visité un centre d'un homme protestant à Blogy. Et là, j'étais conscient d'une chose, qu'on souhaiterait vivre longtemps, mais plus on vit longtemps, plus on a des problèmes. Soit la personne elle-même, soit la société et la famille, parce que ça coûte très cher. Avec l'évolution de la technologie, beaucoup de travail vont disparaître. Et aussi, on a d'autres qui vont apparaître. Et du coup, ça nécessite de nouvelles régulations dans les différentes lois de travail. On n'avait pas imaginé au moment où on a créé le code du travail. On voit les débats maintenant, aujourd'hui, ici, chez nous, en France surtout. tout change. Et cela devient un casse-tête de tous les gouvernements. Que ce soit de gauche, de droite, n'importe quelle couleur, c'est un problème mondial. Bref, le monde est en souffrance perpétuelle. Et la création de Dieu aussi. L'homme y compris, la nature soupire. Et face à la situation et contexte mondial qui n'est pas du tout morose, nous avons deux discours. Il y a ceux qui sont pessimistes, ceux qui terrorisent le monde avec un discours noir, disant que ce qui va se passer dans le monde, ça va aller de mal en pire. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent promettre quelque chose de positif, les soi-disant optimistes, que ça va aller de mieux en mieux. Il y a de l'espoir, mais on ne sait pas ça fonde sur quoi. Et face à ces deux genres de discours, où se positionne la Bible? Selon le texte que nous avons ici ce matin, voilà ce qu'il est dit, il y aura un temps de révélation. Nous attendons le temps de la révélation. Il ne dit pas que le monde va s'améliorer. Ce serait mentir. Mais il ne dit pas aussi que ça va être que de la catastrophe. C'est pas ça. Alors qu'est-ce que Paul veut dire par ce temps de la révélation? Si vous suivez bien la lecture de tout à l'heure, il parle du temps de la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire nous. Le temps où ces fils de Dieu seront révélés au monde. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous cacher. Nous sommes un peu en marge de la société. Mais un jour viendra, les fils de Dieu seront révélés au monde entier. C'est ce qui est annoncé au verset 19. Plus précisément, le temps de la libération du corps, dit l'apôtre Paul. Et là, c'est intéressant. Cette position paulinienne, libération du corps. Parce qu'on a toujours eu cette mauvaise habitude dans le christianisme, surtout chez les protestants qui sont très sobres, de détester, de haïr le corps, que c'est le diable. On a tout fait pour diaboliser le corps, mais c'est faux, c'est pas biblique. Au temps de Paul, la philosophie grecque avait véhiculé que le corps était une prison et qui embrigadait l'esprit. Et jusqu'aujourd'hui, chez certains chrétiens, c'est encore le cas. Qu'il faut haïr le corps pour que l'Esprit de Dieu soit épanoui. Ça, c'est une philosophie grecque. On idéalisait tout le temps l'esprit et l'âme et on diabolisait le corps. On mettait tout le temps en contradiction le corps et l'esprit. Par contre, pour Paul, il parle d'une libération qui consiste et qui touche le corps tout entier. Et quand il parle du corps, la chair, l'esprit et l'âme, c'est un ensemble, le corps. Donc c'est une erreur fondamentale de mettre en tension notre corps et notre esprit, comme si le corps était mauvais, était démoniaque, et que seul l'esprit est bien et sain. Oui, notre corps n'est pas mauvais, car l'apôtre Paul a aussi dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison, le jour de notre résurrection, nous revêtirons un nouveau corps. D'où le temps de la révélation qui est exprimé dans le verset 22, comparant ce moment à un moment d'accouchement. C'est-à-dire la souffrance qui précède la joie. Et on est dans cette phase-là, dans cette phase de souffrance qui précède la joie. Et cette métaphore de l'accouchement est très adéquate, car lors de la grossesse, le corps de la femme se déforme. Extérieurement, en apparence, on ne voit que du négatif parfois. Transformation du corps, les souffrances, les douleurs, les fatigues, plus autre chose. Mais ce qu'il y a derrière, ce qu'elle porte en elle, c'est une vie, c'est la beauté, la création de Dieu. Et c'est ce contraste-là que j'aimerais attirer votre attention dans la vie chrétienne. Extérieurement, la vie chrétienne, elle n'est pas attrayante. Ben, il faut prier. Avant de manger, j'ai faim. Pourquoi j'ai besoin de prier? Je mange tout de suite. La vie chrétienne, comme s'il y a tellement de règlements à suivre, qu'il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc les gens, moi, j'en veux pas. Mais derrière, elle contient la vie. Cela me fait rappeler un autre texte de Paul que je vais vous lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 7 à 12. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 12, au nom de Jésus. Mais nous qui portons ce trésor spirituel, nous sommes comme des vases d'argile pour que l'on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et non pas à nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. On nous persécute, mais Dieu ne nous abandonne pas. Nous sommes jetés à terre, mais non détruits. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Dans notre vie, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Extérieurement, c'est la mort. C'est un peu une vase d'argile, et quand on le casse à l'intérieur, il y a le trésor. Donc la souffrance, plus la souffrance est intense, plus ce trésor que Dieu a mis en nous doit se manifester. Nous sommes accablés de toute souffrance, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, comme tout le monde, mais non désespérés. C'est là notre différence aux autres. Nous sommes persécutés comme tout le monde, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis, car la vie, elle agit en nous. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous réagissons comme monsieur tout le monde face aux problèmes et aux soucis de la vie. Mais ce qui nous différencie, c'est la présence de cette vie qui est en nous. La vie que Dieu a mis en toi, son esprit. Parfois, nous voulons tout abandonner et jeter l'éponge quand nous avons le moral à zéro. Et c'est plus que normal et plus qu'humain. Mais cette vie qui est en nous et qui œuvre en nous ne nous laisse pas être écrasés. Il nous relève. Et il ne nous laisse pas abandonner. Et il ne nous laisse pas être anéantis. Pendant quelques jours, j'ai accompagné un monsieur en fin de vie au foyer Saint-François. Un homme de Dieu qui souffre dans sa chair, mais qui a une lucidité extraordinaire. Et il disait avec facilité, « Pasteur, aidez-moi à accueillir le Seigneur avec paix et sérénité. » Je me sentais tout petit devant lui. Ça, c'est une vraie prédication. Pas besoin de paroles, de versets, de toutes sortes de phrases extraordinaires. C'est quelqu'un qui vit sa foi tout en souffrant. Voilà celui qui a la vie en lui, même si la mort prend le dessus. La vie en lui jaillit à travers ce corps qui commence à se détérioriser. Et si vous suivez bien ce que nous avons dit tout à l'heure, ce n'est pas nous qui faisons l'effort d'être bien ou de se redresser quand tout ne va pas bien, mais c'est la vie que Dieu nous a donnée qui agit et qui donne cet espoir. Alors qu'est-ce qui fait que quand nous sommes au fond du trou et que nous n'avons plus la force de lutter et qu'après un certain moment, nous remontons tout doucement la pente, d'où vient cette force? Elle ne vient pas de nous. Il y a une main invisible qui te relève à chaque fois et qui te dit « Je suis toujours là avec toi ». Ce ne sont pas nos volontés ni nos efforts personnels qui font fait que. C'est un peu à l'image des disciples après la mort de Jésus. Ils n'avaient plus rien à espérer. Jésus est mort. Le Maître est mort. Alors le premier qui était le pilier d'entre tous, celui-là, il a dit un jour, il a décidé de revenir à sa vie ancienne, redevenir pêcheur de poissons. Mais manque de peau, le soir qu'il a décidé de tout plaquer et de refaire ce qu'il avait fait auparavant, il n'a rien eu ce soir-là. Aucun poisson. Et une nouvelle fois, Jésus s'est apparu aux disciples dans les mêmes conditions du début de leur retrouvaille. C'est impressionnant, non? Au moment où Jésus a choisi Pierre, c'était le même contexte. Ils n'avaient pas de poisson. Et là, quand il a décidé, écoutez les gars, moi je laisse tout, je vais redevenir pêcheur, Jésus est mort, c'est fini, on tourne la page. Quand Jésus aime les siens, il les aime jusqu'au bout. Et il est revenu à la pêche, et il n'a rien eu le soir-là. Et c'est là que Jésus vient. Jésus n'a pas fait de leçon de morale. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Pierre? Mais pourquoi tu fais cela? Il est revenu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné encore du poisson. Alors rappelez-vous au moment où Jésus est venu vers Pierre, pour la première fois quand il a choisi ses disciples, il avait donné l'ordre d'avancer un peu plus loin où l'eau est profonde. Et ce jour-là, Pierre disait à tous et à devant Jésus, « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Voilà un exemple typique qui nous montre que Pierre était au plus bas de sa foi, pour ne pas dire sa foi a été anéantie. Mais Jésus est encore revenu pour lui, pour le récupérer du fond du trou où il était. Pas pour le juger, pas pour l'accabler, pas pour lui donner de leçons de morale, pour le relever. Pierre, ta place n'est pas là. Voilà la résurrection, chers frères et sœurs en Christ. Tout d'abord, la résurrection a un impact dans le salut, c'est vrai, mais surtout, dans nos vies, il y a une perpétuelle résurrection. On meurt et Jésus nous reprend, il nous redonne vie. Malgré qu'il ait connu la trahison, le Christ, malgré qu'il ait connu le reniement de ses disciples, la fuite de la plupart, il est quand même revenu pour eux, pour annoncer, et il a dit que la paix soit avec vous. Après la trahison, après le reniement, après la fuite, il a encore cette force de leur dire que la paix soit avec vous. Jésus aussi vient en paix vers toi, et non en esprit de règlement de compte. Pourtant, il a de quoi en faire. Nos dossiers dans le ciel sont épais. Nos égarements, nos oui qui deviennent non en quelques minutes. Mais il est revenu pour les siens. Et il va revenir pour toi le jour de la révélation des fils. Pour te montrer au monde entier qu'il t'a aimé, qu'il t'a choisi et qu'il sera toujours là pour toi dans les siècles des siècles. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin.